Les grandes villes sont favorables à la distraction que nous appelons dérive.
Salut à tous, ce matin on part à la dérive avec la chanteuse Dani. Coupe au bol, longue gambette et mini-robe Paco Rabanne dans les années 60, mannequin solaire, actrice nouvelle vague, rose parmi les roses, dandy girl ou grande prêtresse nocturne, Dani, on l'adore sous toutes ses formes et on la suit partout. On prend plein de taxis et on traverse son Paris, qu'elle chérie.
La psychogéographie se proposerait l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, agissant directement sur le comportement affectif des individus.
À la dérive avec Dani, ça commence dans le 10e arrondissement, près du canal Saint-Martin, dans la petite rue des Récollets. Elle nous donne rendez-vous dans ce minuscule temple, chez Quentin, le disquaire, qui tient la boutique Record Station. On s'est téléporté chez les yéyés et on a écouté plein de 45 tours de la Dani d'avant. Ensuite, on a pris un taxi pour aller voir son ami Pierre Grillet, parolier de charme qui a écrit des très belles chansons que tout le monde connaît. Et puis, on a fini près du Panthéon, dans la plus vieille échoppe de magie du monde. Abracadabra, à la dérive avec Dani, ça commence là.
À la dérive avec Aurélie Sfèze.
Dani chante parce que ça l'amuse. Et ça frimousse et sa manière nous amuse aussi. Elle était cover girl jusqu'à son premier disque. Frédéric Botton a écrit ses chansons. Son peintre préféré, Bernard Buffet, lui a dessiné la pochette de son dernier 45 tours. Et il est en plus le président de son club de fanatiques. Un grand parrain pour lequel elle chante.
Moi je suis son scopitone, sa fox mauvietone, je suis sa divine. À peine il cliquait du doigt, j'y ai dans ses bras. Je suis sa morphine. Lui n'est même pas rasé. Pourquoi discuter? Il se prend pour James Dean. Mais moi je suis son scopitone, son magnétophone. Je suis sa darling.
1, 2, 3, 4. Bonjour, baiser du jour. Amour toujours, le ciel est bleu, la mer est verte, laisse un peu la fenêtre ouverte. Il est très gros le micro.
Voilà, il est très gros, mais après vous allez l'oublier.
Bien sûr, bien sûr qu'on va l'oublier.
Je suis en face de vous, Dani, avec vos lunettes fumées, votre chapeau gris, votre manteau gris. Vous êtes tout en gris.
Aujourd'hui, je me suis dit, c'est un jour du gris souris.
Couleur du temps.
Couleur du temps. Après, ce sont des couleurs. Le gris, c'est une couleur spéciale parce que les cartes des peintres en lettres, il y a marqué gris souris morte en couche et gris souris effrayée. C'est trois gris différents.
C'est lequel le gris souris morte en couche?
Il tourne un peu vers le gris noir, un peu. Bon. Moi, c'est gris éclairé aujourd'hui.
On est rue des Récollets, dans le 10e, à Paris. Et vous avez choisi, pour votre dérive, vous avez choisi d'abord de commencer par une boutique de disques vinyles. Pourquoi cette boutique? Elle s'appelle comment?
Je crois qu'il n'y a pas de nom, cette boutique. C'est juste qu'il y a une personne qui s'en occupe, Quentin, qui va dans le monde entier ou qui a des contacts dans le monde entier pour récupérer tous les vinyles les plus exceptionnels de la planète. Et donc le vinyle, ça fait partie de ma vie depuis toujours. De chez mes parents, il y avait les 78 tours qui étaient dans des pochettes craft comme ça, où il n'y a pas encore de photos sur les pochettes. Et puis après la vie, les 45 tours, les 33 tours où il a commencé à avoir des photos, et surtout la qualité du son. Ce petit diamant qui fait les rails, comme on dit, dans cette boule de vinyle. C'est assez magique. C'est un acte, c'est un rendez-vous. C'est comme quand on écrit une lettre, un vinyle. Là, il faut prendre le disque, le sortir de la pochette, le mettre sur la platine. C'est un moment, c'est un rendez-vous.
Dani, allons-y.
On va au vinyle.
À la boutique.
On y va.
Féline, câline, coquine, comme tu les aimes. Je veux être toutes celles que tu as connues, de la plus folle d'entre elles à la plus ingénue. Je dans tes rêves et tiens-le-toi pour dit. Je veux être la seule Ève de ton paradis.
Bonjour Quentin, vous allez nous ouvrir exprès la boutique, c'est ça?
Exactement, j'ouvre un peu plus tard d'habitude. Mais là...
Alors, on vous a fait lever un peu tôt.
Bon, faut pas exagérer quand même.
Comment elle s'appelle votre boutique, Quentin?
Record Station. C'est un nom pour les intimes et tout ça.
C'est quoi le nom pour les intimes?
Le Temple. Ouais.
Ah, c'est bien, hein? Le Temple, c'est Étienne qui a trouvé ça. Étienne Dao, évidemment.
Je crois que je vais faire une dérive avec lui un peu plus tard.
Ah oui, oui, quand
j'irai à Londres.
Ah voilà, mais je viendrai avec vous alors.
Ah ben oui, je vous emmène.
On va faire ça.
Hein?
Déjà, on prend des rendez-vous, c'est cool.
Mais c'est tout petit!
Alors donc, on est dans ce temple, vous voyez, qui est tout petit, mais quand vous regardez le mur, vous voyez que des bijoux, ça s'appelle. Ce sont des vinyles, ce sont des bijoux, et très rares surtout. Donc, Quentin m'a trouvé le plus beau disque d'Elvis Presley, qui est mon idole quand même depuis toujours. Comment il s'appelle ce disque?
Elvis Presley, non, c'est le premier.
Pourquoi vous l'aimez tant, Elvis, Nani? Qu'est-ce qui
Parce
vous plaît
que,
chez lui?
D'abord, c'est, je l'ai découvert quand je devais avoir 14-15 ans. Et quand j'ai entendu sa voix et ses chansons, ça m'a transporté. Et puis surtout, ça n'a pas une ride, quoi. Il a ouvert la porte sur tout ce qui a suivi après aux États-Unis, du rock, du blues, du jazz, de la... Oui, c'est celui-là, voilà. Regarde ça.
On l'appelait Elvis de Pelvis.
Parce qu'il a un coup de hanche,
de rein, ouais.
Un coup de rein, de hanche et de jambes exceptionnel. Là, nous avons Christophe, nous avons... Enfin, je sais pas, bon, vous voyez...
Étienne Dao, là-haut.
Oui, bien sûr.
Gainsbourg, Bardot, Bonnie and Clyde. Alors, vous êtes ensemble, il y a deux vinyles, un vinyle Dao et le vinyle d'Annie à côté.
Ça, c'est celui qu'on avait fait quand j'ai fait l'album sur Paris. Ouais. Et après, bon, il y a d'autres, là, Jimmy Cliff, enfin, tout ça.
Bob Dylan.
Tous ces morceaux, même si on ne connaît pas très très bien les chanteurs, quand on les met sur la platine, c'est juste exceptionnel.
Quentin, les gens peuvent venir ici écouter sans forcément acheter, mais juste découvrir.
C'est un peu la cour de récréation de beaucoup de mes clients qui viennent se retrouver ici, se connaissent, se rencontrent, on discute, on partage. Moi, je pense que depuis que j'ai ouvert le magasin, j'ai dû faire découvrir peut-être autant de disques que j'en ai découvert à travers ces moments de partage avec mes clients, qui deviennent des clients plus ou moins, entre guillemets, presque des intimes, quoi, du coup, ouais.
Vous avez des 45 tours de Dany dans les années 60?
Voilà, j'ai celui-ci ici, mais qui n'est pas à vendre parce que
mais
j'ai aussi des petits objets à moi que j'aime effectivement mêler au milieu de...
Gros, voilà. J'attendais un bébé là.
Vous étiez enceinte?
Oui,
ça vous se voit pas trop. Vous êtes toute fine, une taille
dégagée. Oui, mais j'avais des seins énormes.
Ah ben vous étiez contente à ce moment-là, oui. Puisque des fois vous avez dit que vous n'aviez pas trop de seins à cette époque, vous étiez complexée.
Ah non, c'est le seul moment où j'en avais, et je ne voyais même plus les bouts de mes pieds tellement j'étais...
Alors qu'est-ce que vous êtes mignonne là-dessus,
oui, je sais pas,
avec la coupe au bol.
C'est marrant.
Alors il y a des chansons extraordinaires, j'ai écouté il n'y a pas très longtemps « Papa vient d'épouser la bonne ».
Ah, « Papa vient d'épouser la bonne », c'est une chanson qu'on faisait à l'Alcazar. Quand j'ai commencé l'Alcazar, ça devait être en 69-70, c'était quelque chose comme ça.
Vous étiez meneuse de revue?
Oui, enfin c'est un grand mot, je participais beaucoup à une revue où j'étais peut-être le lien, le fil conducteur on va dire, oui. Et... il y a un monsieur qui s'appelle Jojo de Salerne qui est arrivé et qui a pris la fourchette et puis qui a fait « Ah, moi j'ai une chanson qui s'appelle « Papa vient d'épouser là-bas ». Il faisait comme ça. Alors Jean-Marie a dit « On le fait tout de suite ». Et puis sur scène, quand je la chantais, j'étais habillée en bonne, évidemment, avec des barésies, enfin bon, le dossier et la petite robe et le col Claudine comme ça.
La soubrette.
Et ouais, c'est ça, un peu sexy quand même. Il y avait tous les garçons qui étaient habillés avec le tablier blanc qui venaient chanter tous les... refrain avec moi. Et après, comme il manquait une chanson sur ce disque-là, donc on a dit, on va faire « Papa vient d'épouser la bonne » qu'on a enregistré en 2 heures. Et puis ça a fait un carton, donc c'est très très drôle.
Papa vient d'épouser la bonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit papa. C'est une gentille petite bretonne. Oh, quelle idée il a eu là, mon petit
petit papa, toute la famille, tante Clara, tante Lison, oncle Camille, ne viennent plus à la maison, car ça, personne ne lui pardonne. Oh, quelle idée il a eue là, mon petit papa.
Parce que c'est un titre à ce moment-là, si vous voulez quand même. Papa vient d'épouser la bonne, ça voulait dire papa des maîtresses.
C'était la libération des femmes, là. Vous étiez,
oui,
vous, une femme très libérée,
sûr,
mais vous étiez au début de cette libération-là.
Oui, bah, ça c'était le mouvement des femmes. On est pareil que les hommes, on peut mieux faire, on est beaucoup plus... Enfin, ça continue, hein, c'est toujours le même combat.
Donc du coup, c'était reçu comment? C'était plus fort?
Ben, moi, on était toutes, il me semble, les femmes ont adoré Simone Veil, parce que quand même, moi, pour moi, c'est une femme exceptionnelle que j'admire beaucoup et qui a été quand même une des premières femmes à être ministre, à parler dans des endroits où il n'y avait que des hommes et que des mecs dans la politique un peu traditionnelle, on va dire. Et voilà, cette femme, elle nous a beaucoup aidés.
La parole est à Madame le ministre de la Santé.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame.
Une qui était votre copine, c'était Zouzou la twisteuse.
Oui. C'est toujours ma copine.
Ah, c'est toujours votre copine.
Bien sûr.
Vous avez fait les 400 coups avec elle?
Pas vraiment les 400 coups, c'est-à-dire qu'on montrait un peu qu'on était un peu libre, qu'on pouvait rentrer chez Castel toute seule, sans être accompagnée, parce que à un moment, quand on sortait, deux femmes sortaient ou une femme sortait toute seule, c'était pas très 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 bien vu.
Avant, fallait être accompagnée soit par son mari ou son frère.
Oui, ou quelqu'un, enfin qui était copain. Ou un cousin,
ouais.
Et surtout aussi de fumer. Même de fumer, pour une femme qui fumait le matin au café, c'était... Bon, moi, mes parents, ils étaient un peu fumeurs, donc ça n'a jamais été un problème. Après, il y a des interdits, quoi. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus fumer à l'intérieur, on ne peut plus rien faire. Enfin, on est plein... Moi, j'ai vécu mon adolescence à Perpignan avant d'arriver à Paris, où tout était permis, les portes étaient ouvertes. Bon, après, je suis pas... Aujourd'hui, je suis dans le temps d'aujourd'hui.
Vous n'êtes pas nostalgique?
Non, j'ai pas de regrets, parce qu'il y a toujours des choses positives... à la période où on vit, même si c'est compliqué, dur et inhumain. C'est inhumain, les choses qu'on voit dans la rue, les gens qui dorment pas dehors. C'est un manque d'amour et de curiosité.
C'est
un manque d'amour de l'autre, oui, surtout.
Ça. Le manque d'humanité.
Oui, oui. Alors évidemment, ça touche. Peut-être une minute juste au moment où on le voit, après on n'y pense plus. Ouais. On se dit, il faut aller dans une association, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, c'est un point d'interrogation. Comment on fait? Il me semble, en 1964, 65, et à partir de là, c'était plus serein, un peu plus facile. Il faut faire la part des choses. Hein.
Nova.
Nova.
Destin, qu'est-ce t'as pas? Toujours ton air d'avoir l'air comme ça. Destin, qu'est-ce t'as pas? Tu vis la tête à l'envers, je vois que ça. Tu sais plus si t'avances ou si tu tournes en rond. Et tu te prends la tête à la moindre occasion. Si ta vie est en panne, fais des réparations. Mais pour vraiment te plaindre, tu n'as pas de raison. Qu'est-ce t'as pas? Toujours ton air d'avoir l'air comme ça. Qu'est-ce t'as pas? Tu vis la tête à l'envers, je vois que ça.
Vous avez beaucoup d'amour en vous. D'abord, vous avez reçu beaucoup d'amour, je crois, de votre famille, vous, Dany.
Moi, j'ai une enfance privilégiée, très, très pleine d'amour et d'attention et d'être choyée. Après, j'ai eu la confiance de mes parents qui me laissent libre dans la vie, et même mes sœurs aussi, de ce qu'on avait, ils nous ont accompagnés dans ce qu'on avait envie de faire. Moi, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je voulais partir de Perpignan. Alors que j'adore y retourner aujourd'hui. Évidemment, quand on a 19 ans, on a envie de partir d'un cocon où on est très entouré,
encadré
et très choyé. Voilà, je suis partie à Paris, je je voulais faire esthéticienne, j'ai pas fait ça du tout. Oui, il y avait la première école d'esthéticienne à la rue Marbeuf, je suis allée une fois, puis ça m'a pas plu de me ravaler la tronche là comme ça avec des pinceaux, tout ça, c'est pas un truc qui m'a plu.
Ça m'a pas branché.
Non, ça m'a pas branché. Et puis bon, après la vie a fait le reste. Hein. On m'a photographiée et encore sur les photos, j'étais pas du tout impressionnée parce que mon père m'a photographiée, je crois, de la première seconde où je suis arrivée sur la planète Terre jusqu'à ce qu'il s'en aille. Il nous a photographiés à tour de bras. Donc,
il vous a filmé aussi, non? Oui, il était photographe, artiste, voilà, de l'image.
Voilà, de l'image, de la photo, de la lumière. Il m'a appris les lumières. Pourquoi là-bas, il y a un soleil très privilégié à Perpignan, un truc qui est faux. Tout le fauvisme, ça vient de là-bas, de Collioure, du bleu du ciel qui est très particulier, du vent. Et cette région, moi, c'est la région de mon enfance. J'imagine que la région de l'enfance de tout un chacun, elle est importante dans sa vie.
Et vous, vous avez cette Catalogne aussi en vous? Vos grands-parents qui ont fui Franco, qui étaient votre mère était à Barcelone?
Oui, c'est, voilà. Donc, réfugié politique, enfin, tout ce... Moi, je suis catalane. Quand je dis je suis catalane, oui, je suis sans Kéor. Les Catalans, ils sont très têtus, ils ont un caractère rocailleux, particulier. Je les aime beaucoup, très chaleureux aussi, très forts dans leur... quand ils donnent, c'est pour tout, c'est voilà, très précis.
Je suis née comme tout un chacun, ça tombait mal, mais ça fait rien. C'était au temps de la morale, avant le planning familial. Le bon Dieu savait tout d'avance. Plus tard j'ai fait mes premiers pas, je goûtais chez la dame d'en bas. Et quand j'ai su mon alphabet, maman m'a fait un tablier. Elle n'aimait pas les taches d'encre. Vive l'enfance. Je ne suis pas allée bien haut, je nage un peu entre deux eaux. Mais des robes comme j'en ai des tas, j'en avais pas de si belles que ça. Quand on m'habille en dimanche, mais l'odeur du café au lait, des fois ça me ferait pleurer. Mes parents, ils ont dû vieillir. Un jour ou l'autre, ils vont mourir. Faudrait que j'y passe un dimanche. Vive l'enfance.
Tu me regardes, Quentin, comme ça, je dis quoi? Comme des conneries, quoi? Je sais pas, je parle...
J'aime bien, on est accoudés comme ça sur les vinyles, comme si on était sur une table. Là, louride. Ah.
Des bijoux, juste là, celui-là, c'est un disque mythique pour moi, voilà.
Ce Blue Mask.
Oui. Ça.
Transformer.
Ça, c'est exceptionnel. C'est normal que les mondes d'aujourd'hui soient inspirés par des gens comme ça. Et des interprètes qu'il y avait à cette époque-là, derrière, il y avait souvent des auteurs-compositeurs très très pointus.
Et puis les jeunes groupes d'aujourd'hui, les groupes français, de pop française, ils sont très intéressés par cette fausse naïveté qu'il y avait chez les yéyés.
Oui, peut-être, c'est sûr. C'est... Oui,
il y a un charme fou.
Oui, il y a du charme. C'est bien parce que c'est écouté. C'est... Ouais. S'ils sont inspirés par ça, moi je trouve ça top.
Même votre chanson, par exemple, La Machine, qui est une chanson hyper rock, presque punk.
Elle est écrite par Frédéric Botton, qui a écrit quand même des très belles chansons pour Régine, pour Zizi Jeanmaire, qui met beaucoup le musical, qui a écrit beaucoup pour l'Alcazar aussi. Et cette chanson La Machine, vous vous rendez compte, quand je l'ai faite écouter au Strangler, c'est quand même un groupe punk de folie, Jean-Jacques Burnel, il la joue sur scène. Ce qu'elle raconte aussi, c'est dément. C'est une machine, enfin, c'est une société de consommation d'aujourd'hui.
Je me suis acheté une machine qui ne fabrique rien. Chaque fois que j'y mets 20 centimes, elle me répond merci bien. Il y a des boutons partout, les boutons, moi ça me rend dingue. Je les appuie tous d'un coup, ça fait plus de bruit qu'un flingue. Je me suis acheté une machine à tuer l'ennui. Mais la seule chose qui m'ennuie, c'est qu'elle me pique mes centimes.
très loin de moi. Pour ne plus voir ce batrague, je me suis acheté une machine. Une machine qui ne fabrique rien. Un gadget, un truc centime. Sans doute j'en avais besoin. Sans doute j'en avais besoin. Sans doute j'en avais besoin.
On a les Doors, ça vous a été
oui,
Doors
bah oui, les Doors, ouais. Bon, ça c'est incontournable. Beach Boy aussi, c'est bien. Enfin, il y a tout là.
On vous appelle la Marianne Faithfull française. Alors ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Je n'ai jamais très bien compris pourquoi cette comparaison. Mais c'est peut-être une femme qui, elle, à Londres, voilà, elle côtoyait les Rolling Stones. Moi, à Paris aussi, c'était peut-être une femme qui a montré un peu la liberté féminine en Angleterre d'une autre façon que toutes les jeunes qu'il y avait à ce moment-là. Je ne sais pas, c'est peut-être ça la comparaison. En tout cas, moi, je ne chante pas du tout comme elle. Pas du tout. Elle a une voix que j'adore. C'est quelqu'un que je connais pas mal.
Effectivement, Marianne, c'est un peu l'étendard de Londres, comme tu peux l'être de Paris et de la France. Quoi. C'est plus dans le sens de l'image.
D'être toujours chic aussi. Il y a une élégance.
Ouais, bon, bah, c'est bien comme analyse. Je trouve ça plutôt sympathique et flatteur pour moi. En même temps, ce qui est bien, c'est de faire rêver. Si ma mission sur la planète Terre, c'est de faire rêver grâce à une chanson, grâce à une image, grâce à une interprétation dans un film ou tout ça, j'ai gagné le combat d'être sur la planète Terre. Bravo les étoiles du ciel, merci de m'avoir envoyé sur la planète.
Quentin, le petit bijou.
Oui, le dernier bijou.
Ouais. Le conseil du disquaire, le super bijou, Quentin.
Des ronettes dans tous les girls groupes spectoriens, comme ça, effectivement. Voilà, je pense aussi au Cristal, avec le Is a Rebel de Cristal. On fait partie, effectivement, des disques que je peux avoir parmi les plus rares que j'ai ici.
On s'en met un petit.
Voilà, comme tu n'as pas pu venir au concert l'année dernière de Ronnie Spector, on va se finir sur un petit Be My Baby.
Ça fait rêver, quoi. Hein? La voix.
Souvenir qui vous remonte à Dani quand vous écoutez les Ronettes.
Collioure, je sais pas, 63-64, à la plage, sur le petit dancing qu'il y avait là.
Ah. Et vous êtes avec qui? Vous êtes comment?
Je suis avec mes copines de Perpignan. Je suis dingue amoureuse d'un mec qui me regarde pas et je pleure. C'est adolescence. On faisait griller les sardines que les pêcheurs amenaient et on écoutait de la musique à fond. Et on buvait du whisky.
Quel âge?
Je sais pas, 16 ans, 17 ans.
Quentin, vous avez quel âge?
J'ai 35 ans.
Vous auriez aimé avoir 17 ans à cette époque?
Exactement.
Quoi.
15 ans en 64 ou 65, ça aurait été parfait.
Ouais. C'est vrai.
Voilà, dans mon petit 15 mètres carrés ici, je suis en plein milieu des années 60, donc j'y suis très bien. Voilà, c'est mon refuge. Alors, je passe d'une décennie à l'autre, c'est un peu ma machine à voyager dans le temps. Et puis il y a toujours une place passager pour emmener nos amis avec nous. Aujourd'hui, c'était Dani.
Ciao Quentin.
Au revoir, merci. Salut ma Danette.
Salut. Bisous, je vais fumer.
Vous écoutez À la dérive avec Dany sur Radio Nova depuis Record Station, mon temple du vinyle à Paris dans le 10e arrondissement.
Nova. À la dérive avec Aurélie Sfez.
Avec Dany, on a quitté Quentin et tous ses merveilleux disques pour filer rejoindre son ami Pierre Grillet à la terrasse du bar de l'Atelier, juste à côté du théâtre du même nom, près de Montmartre. Dany, la catalane, règne sur Paris. Ses carrosses sont des taxis et ses souvenirs défilent par la fenêtre. Les amis au café de Flore, les roses de la vie, le cabaret L'Alcazar, le piano-bar avec Gainsbourg, François Truffaut et les enfants. À la dérive avec Dany, ça continue, ça roule, et qu'est-ce que ça fume?
Je vais fumer.
Ça devient très très subversif de dire à la radio on va se fumer une clope.
On ne veut pas se faire engueuler?
Non.
Tu en as des clopes?
Non, j'en ai pas. Ouais, est-ce qu'on se fait engueuler si on... Non, je crois que sur Radio Nova, on peut tout dire.
Ah, j'espère. Monsieur Bizot quand même. un ange qui nous accompagne dans le ciel.
Vous l'avez connu, Bizot ?
Oui, très bien, j'aime beaucoup.
Les radios libres,
bah oui.
En 80.
Ça a quand même révolutionné le monde et du disque, et de la musique et tout ça. Hein. Bon, là, on fait un parcours d'anciens combattants. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là ?
Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle un taxi.
Et on va où ?
On va voir Pierre Grillet.
Okay.
Hop, on s'engouffre dans un taxi. Oui, on fait une émission de radio pour Radio Nova.
Ah, Radio Nova. C'est la radio préférée des clients le soir. Parce que nous, on leur propose la radio Nova tout de suite.
Nova.
Nova.
Nous allons au théâtre de l'Atelier, un café qui est à côté qui s'appelle le bar de l'Atelier.
Dans le 18e.
C'est une jolie place, c'est un bel endroit.
Dany, vous avez fait du cinéma et François Truffaut vous a attrapé dans la rue. C'est ça l'histoire ?
J'avais les enfants à l'école et au coin il y avait une boulangerie. Et donc à la sortie de l'école, j'allais chercher les pains au chocolat ou les croissants, je sais pas, la crème anglaise, enfin tout ça. Et puis un jour, il était là, il avait ses bureaux au-dessus, et il me dit, ah, je vous ai vu en photo, je sais plus dans quel magazine.
Walter, viens voir, voilà justement les photos de Julie, tu vois.
Ah oui, mais je la connais, je l'ai vue dans un film.
Ah ouais. Tiens, regarde, elle est jolie, c'est très belle cette photo-là.
Il n'y a pas de photo avec la perruque courte.
Voilà, la perruque courte, peut-être un peu sombre, hein.
Il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis, ben, j'attends mon fils qui est à l'école. Et il me dit, ah, mais c'est marrant, moi j'ai mes bureaux juste au-dessus de la cour de récréation.
Truffaut.
Oui, François. Et je lui dis, ah, mais j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'ils font dans la récréation, pendant la récréation.
Ah oui?
Les parents ne voient pas les enfants à la récréation. Je lui dis, est-ce que je pourrais monter? Il m'a dit, mais bien sûr, quand vous voulez, tout ça. Voilà, puis un jour, il m'a dit, il m'a fait envoyer un pli avec écrit, bonjour, c'est l'histoire d'un film. Est-ce que tu voudrais être Liliane, et qui est la petite amie de Antoine ?
Jean-Pierre Léo, Jean-Pierre. Dans la nuit américaine.
Oui, dans la nuit américaine, Jean-Pierre Léo. Comment on peut refuser une proposition aussi simple, aussi, aussi directe et pleine de désir de sa part ? Mais quand vous voyez le film, c'est l'histoire d'un film dans un film. Donc c'est, et c'était, il y avait beaucoup, surtout, beaucoup de respect de tous les acteurs, tous les techniciens, François, tout le monde avait envie que ce soit un beau film.
Je vais parler avec Turin.
Salut Liliane, bonjour Alphonse.
Bonjour.
Bonjour. Ah bah tenez, voilà, c'est pour
merci.
Vous.
Je voulais vous dire merci pour le stage.
Oh bah écoutez, ça vous plaît l'idée de devenir script girl?
Bah vous savez, après une première journée de tournage, je peux pas me rendre compte encore.
Ah bon? Oh, c'est un métier formidable, moi je trouve, vous verrez.
Je vous le dirai dans deux mois.
Oui, c'est vrai. Bon, salut les enfants.
Au revoir.
Dis donc Liliane, fais-moi plaisir. Oui, mais marche un petit peu devant moi, que je vois des laisses. Vas-y.
Comme ça?
Ah oui, comme ça, c'est très bien.
Comment il vous dirigeait, François Truffaut? Il était comme réalisateur?
Il volait le vocabulaire de tout le monde. Il était beaucoup à l'écoute, François. Il est beaucoup à l'écoute. Il écrivait les textes et les glissait sous la porte, comme dans le film, c'est écrit. Et il nous disait, tu vas dire ça. Tu disais, mais on a parlé de ça à midi au déjeuner. Donc, c'est pas qu'il voulait.
Il se nourrissait du réel.
Voilà, il se nourrissait de la personnalité de chacun. Il me semble que c'est ça.
Et donc, vous, qui êtes Liliane, dans le film, il s'est inspiré de quoi? De votre vie réelle, de votre personnalité, justement? Il voyait chez vous la maman qui venait voir son fils dans la cour de récréation.
la liberté d'une femme. Quand on voit tous les films de François, il y a quand même comment il sublime les femmes et comment il sublime les rôles des femmes et des hommes aussi. Mais chaque fois, c'est des histoires sur, encore une fois, l'amour, ce mot qu'on dit banalement, mais qui est très fort. J'espère que c'est un amoureux qui m'appelle.
Ouais, ce serait bien.
Il est où ?
Comment vous les soignez-vous, vos chagrins d'amour ?
Je sais pas. Déjà, il faut le digérer. Pourquoi on aime quelqu'un un jour et pourquoi on l'aime plus le lendemain, c'est quand même ce qui mène le monde depuis toujours. On ne sait pas pourquoi, quand on vit avec quelqu'un, il y a d'un seul coup un petit détail qui fait que ça bascule. C'est dingue, on ne sait pas pourquoi ce détail-là il arrive et qui fait basculer, que tu ne vois plus la personne en face d'une autre façon. Tu vois la personne en face d'une autre façon. C'est un truc de fou, ça. Il est passé à l'orange, il a failli en payer 10 personnes. Hein. Ah bah il s'est fait arrêter, non. Bon, c'est pas grave.
Non, mais c'est un étrange carrefour ici, hein, Barbès.
C'est Paris. Tu fais d'une station de métro à l'autre et tu rentres dans plein d'autres univers. Hein. C'est magique, violent, dur, merveilleux, épouvantable. Ça dépend comment on le regarde. Hein.
Vous avez quel regard, vous, sur Paris, Dany ?
Moi, c'est ma ville préférée au monde.
Ah ouais, pourtant, vous avez voyagé. Hein.
Oui, oui, même si on voyage, Paris, c'est la ville, une des villes les plus belles du monde. Paris, quoi. Culturellement, tout, quoi, c'est juste magnifique. La France est magnifique. Je suis très cocorico, moi.
Ouais. Vous habitez, vous, dans quel quartier à Paris, Dany ?
J'habite dans le premier, en face des Tuileries. Je suis la gardienne du jardin des Tuileries, moi. C'est la vérité.
Voilà, Montmartre, le Sacré-Cœur. C'est bien, avec vous, on dérive, vraiment, quoi. Ouais. Ça vous inspire quoi, ces histoires de dérive, Dany ?
La dérive, c'est... Je suis d'accord, depuis tout à l'heure, j'y pense à ce mot dérive. Je me dis que c'est aller... dans un endroit où on n'a pas trop l'habitude d'aller. Voilà. La dérive, c'est un mot au départ négatif pour moi, parce que quand on dérive, mais ça peut être calme ou tumultueux. C'est là, monsieur, on dirait descendre ici. Voilà, parfait.
Vous descendez là ?
Oui, c'est là qu'on va. Voilà, magnifique. Et continuez à mettre Radio Nova. Hein.
Allez, au revoir, monsieur.
Allez, merci beaucoup, au revoir.
Nova.
Nova.
Les jolis joailliers, Tati. Poupée Barbès, baguette lévrier et bâtard des abbesses. La rue 7h du soir, les premières de gala. Les trains de bière en gare, mon nom sur l'Olympia. Je prends tous les paris, je mise tout sur mon cœur. Black market, rouge tapis, j'annonce la couleur. Beau quartier, bonne taux, la belle c'est ma partie. Des palais hauts, tripots, je prends tous les paris. La jeunesse dorée, la vieille lusitanienne, radé salon de thé. Bretonne et africaine, les fauches et les fauchons, les terrasses en hiver, l'obscurité des cons, la ville des lumières. Je prends tous les paris, je mise tout sur mon cœur. Black market, rouge tapis, j'annonce la couleur. Au quartier Bonneto, la belle c'est ma partie. Des palais au tripot, je prends tous les paris.
Oui, Dany, on en était sur cette histoire de dérive, on n'avait pas fini.
Si tu es bien, que tu t'en vas, que tu es sur un bateau, sur la mer calme, comme ça et tout, et que tu t'en vas à la dérive, c'est on se laisse porter par le vent, par rien d'ailleurs. Je me vois sur une petite barque qui va atterrir sur une plage où il n'y a personne, où c'est juste...
On a rendez-vous au bar de l'atelier, c'est ça ?
Au bar de l'atelier.
Bonjour.
Bonjour.
Enchanté, bonjour.
Pierre Grillet.
Enchanté, Aurélie.
Radio Nova.
Radio Nova, que j'écoute.
Ah.
Oui, bah oui.
On vous félicite.
Non, mais c'est quand même du meilleur rap que sur Skyrock.
Elle m'a beaucoup parlé de vous, Dany. Hein.
Oui, bah, je vais bien. Bah, vous savez, j'ai de la chance. je suis là, soit vous avez vu cet endroit très joli.
La petite place du théâtre de l'Atelier.
Voilà, on est en répétition, donc vraiment, on est heureux.
Vous répétez quoi ?
On répète un spectacle qui va se jouer dès le 6 mars. C'est avec Joe Star.
Qu'est-ce qu'il fait, Joe Star, dedans ?
Il est tout seul sur scène, ça s'appelle Éloquence à l'Assemblée.
C'est politique, alors ?
Ce sont des discours que j'ai agencés de députés très éloquents comme Victor Hugo, Lamartine, l'abbé Grégoire, ou je ne sais pas, il y en a beaucoup, Jaurès. Voilà, c'est une espèce de petit parcours de l'histoire de France à travers l'éloquence.
Et alors Pierre Grillet, Dany, puisqu'on parle un tout petit peu de politique, comment vous la sentez cette élection ? Est-ce que vous allez voter tous les deux ?
Il faut y aller absolument, on vit un moment, moi je trouve ça incroyable le moment qu'on vit en ce moment.
La France a connu des moments beaucoup, beaucoup plus chauds que celui-là.
C'est-à-dire, par exemple, quand vous mettez en perspective les textes de ces écrivains à l'Assemblée, de ces discours et de ce qu'on entend aujourd'hui, qu'est-ce qui résonne ?
Ce qui résonne, c'est que les problèmes sont exactement les mêmes. La liberté, la misère, la peine de mort, la justice. La paix, la guerre, c'est toujours les mêmes problèmes. Enfin, ça n'a pas beaucoup changé.
Les privilèges ?
Alors ça, c'est un sujet très intéressant, les privilèges, je trouve. En abolissant le privilège, avant de manger de la viande, c'était un privilège. Depuis qu'on mange tous de la viande, c'est de la merde. Ok ? Donc, jusqu'où est-ce qu'il faut abolir les privilèges ? Depuis que tout le monde a une voiture, l'air est pollué. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
Ça pose problème d'abolir les privilèges de nos jours.
Oui.
Vive les privilèges !
Non, mais je ne dirais pas ça, mais disons que...
C'est vrai que c'est un drôle de paradoxe.
C'est un très grand paradoxe et je ne sais pas comment on peut s'en sortir.
Et alors, comment vous vous êtes rencontrés, Pierre Grillet, Dany ? Qu'est-ce que vous avez fait ensemble ?
Beaucoup de chansons.
Beaucoup de chansons.
Au fil du temps, on a fait beaucoup de chansons.
Que vous avez écrites ?
Il a écrit pour C'est la Watt.
Pour Caroline Loeb, c'est vous qui avez écrit de toutes les matières C'est la Watt qu'elle préfère ? Oh, grand Pierre Grillet.
Sûr. Grand Pierre Grillet.
Elle déchire les pages de tous les dictionnaires. Elle n'a que quelques mots à son vocabulaire. Amour par terre et somnifère. En d'autres mots, elle se laisse faire. De toutes les matières, c'est la Watt qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi.
Et l'autre chanson incontournable qu'il a écrite, ça s'appelle Madame Rêve.
D'Alain Bachung. Oh, grand Pierre Grillet.
Ah.
Madame Rêve, d'atomiseur, et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur.
Non mais il est très fort Pierre Grillet, je vous jure je suis très amoureuse de lui depuis longtemps, il ne s'est jamais rien passé entre nous, on s'aime d'amour comme ça au quotidien, hein, c'est ça ?
Oui,
ou quoi ?
T'as un quotidien très sympa. Hein.
Mais pourquoi il ne s'est rien passé entre vous ?
Parce que c'était pas le timing.
Vous êtes raté ?
Ah oui, on aurait dû se connaître dans les années 70. Ça aurait été mieux.
À l'époque où le sexe était libre.
Non, à l'époque où on était jeune, beau, flamboyant.
Mais vous êtes toujours beau et flamboyant et jeune.
Non, il est très flamboyant, regardez.
Tous les deux, vous êtes flamboyants.
Ouais.
Chaque fois que je fais quelque chose, j'appelle Pierre Grillet et Étienne Dao. Voilà. Et je leur dis, qu'est-ce que je dis à ces interviews, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Et ils me répondent, mais tu sais très bien le faire, j'ai pas besoin de te dire des choses, ils m'engueulent en plus.
C'est difficile de répondre à des interviews, c'est ça ?
Non, mais vous avez un faux air sympa, donc on...
Un vrai, pourquoi faux ?
Non, parce que les journalistes ont toujours l'impression qu'ils ont un faux air sympa.
Vous y alliez, vous, à la boîte de nuit de Dany, à l'aventure ? Ça s'appelait l'aventure, votre boîte ?
Non, il venait pas. On n'était pas encore dans le circuit.
Moi, en quelle année tu l'as ouvert ?
74.
Moi, je suis arrivé à Paris en 74, donc j'étais vraiment un mec qui connaissait personne. Et on ne m'ouvrait pas les boîtes de nuit. Non, mais parce qu'il fallait quand même avoir une petite introduction pour entrer dans certains endroits.
Ça s'appelle le ticket d'entrée.
Vous étiez physio, Dany ?
Moi, je regardais que les chaussures, parce que mon père m'a toujours appris que l'élégance de quelqu'un, c'était avec les chaussures et selon le pantalon qui allait avec.
Et là, ça va, mes chaussures ?
Pas mal. C'est la rivière qui, comme moi, déborde. Elle sort du lit, moi je dépasse les bornes. Je te maudis, toi, qui m'envoie dans les cordes. La vitesse, je la déteste. Elle m'oppresse et elle n'a aucun sens. La seule chose pour laquelle il y a urgence, c'est l'amour. C'est l'amour tout court. Pas mal. Là, on est à poil, quoi. On est plus qu'à poil, voilà, si tu veux. Donc,
Mais moi, j'aime bien le capella comme ça. Là.
Oui, bon, ben...
Et j'avais une dernière question, Pierre Gris, avant que vous filiez au théâtre de l'Atelier. Est-ce que vous avez connu Dany à son époque rose, à son époque quand elle vendait les fleurs?
Oui, bien sûr. Oui, je l'ai connu au tout début. Au moment, tu avais le pronom, voilà, le premier au nom de la rose.
Non, c'était un peu avant.
Même. Oui, en même temps. En même temps. Voilà. J'ai eu cette idée parce que j'ai rencontré évidemment un prince qui est de la rose, un rosieriste, ça s'appelle, et qui m'a emmené à un moment un peu douloureux de ma vie dans cet univers sur cette fleur qui est incontournable.
Moi, je me rappelle de toi, Dany. Où tu m'as dit que tu avais fait le Noël avec Michel Drucker, la bonne année à la télévision, et que tu n'avais pas de quoi prendre un taxi pour rentrer chez toi. Et que tu es rentré à pied après la télé, dans la lumière. C'est un peu ça, cette vie, quand même.
Mais parce que quand on est artiste, des fois, quand on est dans la lumière, quand ça s'arrête, il y a le côté abandon qui est très puissant. C'est-à-dire... personne plus te téléphone, tu as l'abandon. Donc moi, je me suis dit, il faut que je trouve toujours un pendant d'oreille pour que ma vie, que j'ai pas de problème pour payer le loyer, c'est venu un peu tard, mais c'est comme ça.
Est-ce qu'il y a une rose, Dany ?
Pas encore. Et ben parce que j'arrive pas à choisir la couleur, ni le parfum, ni tout ça.
On vous l'a proposé ?
Oui, bien sûr. Mais ça me plaît de pas avoir une rose encore à mon nom, parce que ça serait figé.
Ah oui. Bonne répétition.
Au revoir.
Ciao.
Nova.
Nova. Est-ce au levant, est-ce dans la nuit que je dirai, je t'en prie, je t'aimais tant, oui mais pourtant, je crois que c'est bien fini. Mon amour, la nuit ne dure pas, le soleil rouge-rose détruit tout, chaque fois, il se fout de toi et moi. Tournons et tournons encore et ne dis pas un mot. Tournons et tournons encore avant qu'il ne soit trop tard ou trop tôt. Combien de roses, à peine écloses, m'as-tu offert? Souviens-toi, viens tournons sans un mot. Viens tournons, il fait noir. Mon amour, la nuit ne dure pas. Le soleil rouge-rose détruit tout. Chaque fois, il se fout de toi et moi. Je sens rose ta peau, c'est fini.
Donc là, Dany, on attend un autre taxi. On va de taxi en taxi, nous.
Moi, c'est mon moyen de locomotion très fort. Et l'autobus aussi, j'aime beaucoup.
C'est vrai. Allez, là, on rentre dans le quartier chic là, de Paris, 5e, 6e. Moi, pour moi,
6e.
Ouais, 6e, mais pour moi, c'est chic. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était chic là, vers chez Serge Gainsbourg, la rue de Verneuil.
Oui, mais Saint-Germain, c'est un quartier d'artistes. Il y a un peu moins de librairies, il y a un peu plus de magasins de fringues et tout ça. Au départ, moi, quand je suis arrivée à Paris, c'était un quartier artistique.
Là, vous avez quel souvenir ici, quand vous passez dans cette rue ?
Déjà, je vois mon copain Olivier Pitou, qui était fleuriste. Bon, Serge.
Serge Gainsbourg.
Oui, Serge Gainsbourg. Non, mais c'est un quartier, le Flore, les Deux Magots, tout ça, c'est...
Le Flore, vous y avez été, ça a été votre QG.
Mais c'est toujours mon QG.
Ah oui ?
Oh, j'adore. Quand on rentre, on sent qu'il y a eu des gens qui sont assis à ces tables et qui ont fait la littérature, la presse, les artistes. Il y a une émotion particulière. Le Flore. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Juliette.
Oh. Et Gainsbourg, alors vous l'avez rencontré comment ?
Gainsbourg, c'est Michel Arnaud, une productrice de télé, qui m'a amené le voir.
Pourquoi ?
Parce qu'elle trouvait qu'il avait du talent. Et comme j'étais avec le père de mes enfants, qui était photographe à Salut le copain, elle nous a dit, il faut venir voir ce mec. Et ce mec, c'était Serge Gainsbourg, c'était en 65-66. Et moi, j'ai écouté ce mec, et je l'ai trouvé tellement maladroit sur son piano, comment il chantait, tout ça, avec un charme fou. Cet homme qui était dans le doute permanent sur ce qu'il faisait, quoi. Mmh. On a passé des jolis moments ensemble avec Jen, avec les enfants, mon mari et mes enfants. Enfin,
les enfants ensemble.
Oui, c'était ça, un très bon père, un très papa poule, un couple exceptionnel. Moi, je me rappellerai toujours avec Serge et Jen quand ça a été le premier à faire la publicité de Martini. Le Martini...
L'alcool.
Et il avait emporté l'histoire en faisant une mélodie de 3 mesures ou 4 mesures sur Martini on the Rock. Et ils étaient sortis, ils avaient l'argent cash et elle l'avait dans son panier, quoi. C'est top. Mmh.
Sous un soleil intermittent, en quel oiseau supersonique, charter fuyant vers les tropiques, me tirerai-je à bout portant. Martini, on the go. Et de voyage en paysage, je retrouve Martini Miller. Martini pour savourer l'été.
Et après, Serge, il vous a écrit Boomerang pour l'Eurovision.
Oui, oui.
Et puis, vous êtes fait jeter, ouais.
Quand j'étais au téléphone, Emmanuel Robert, il me dit « Ah mais non, on parle pas de flingue dans une émission à l'Eurovision. » J'ai pas compris sur le moment.
C'était j'entends des bings et des bangs, c'était ça l'idée du flingue.
Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. Ou la phrase qu'ils m'ont dit, sache que ce cœur exsangue, alors le mot exsangue pour eux c'était pas un mot de l'Eurovision, t'aimer comme une dingue c'était pas un truc de l'Eurovision, pour eux c'était trop sexe et c'était trop pas l'Eurovision. Donc Serge a été un peu vert de ça, il m'a dit c'est tous ces connards. Je me rappelle son truc au téléphone, c'est tous des connards, on va faire une phase B, la chanson. Voilà, bon, elle est restée sur une étagère cette chanson et j'ai eu notre chevalier qui est arrivé après, un prince charmant.
Chevalier d'Ao.
Ouais, voilà, prince charmant d'Ao, Étienne, qui m'a dit mais cette chanson il faut la faire. Donc on l'a fait, voilà. Ouais.
Vous m'avez dit, en parlant des jeunes gens qui chantaient, des très jeunes, s'ils veulent acheter des sucettes et des wagons de sucettes, ça les regarde, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, il se trouve que maintenant, vous écrivez pour tous ces jeunes gens, donc maintenant, c'est même vous l'usine à sucettes.
Oh, mais c'est aux gingembre, hein, mes sucettes.
Je sens des baumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire qu'à la bringue et ton amour m'ont épuisé. Je sens des baumes et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à s'aimer comme des dingues,
comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu, je me déglingue, victime de ta cruauté.
Je sens des baumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné.
Donc là, Dani, on arrive au magasin de magie. Mayette Magie, la boutique de la magie, à côté du Panthéon, dans le 5e, rue des Carmes.
Oui, à côté de cette place magnifique, viens, on rentre.
Oui. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci de nous accueillir dans votre magasin de magie.
C'est un plaisir.
C'est une très belle boutique avec des beaux tiroirs, un peu de comme dans les merceries.
C'est les tiroirs de l'époque. Hein.
Des miroirs avec des chapeaux haute forme,
des serpentins,
des cartes, des masques.
Ouais, c'est top.
Vous êtes chez Mayette Magie Moderne, c'est le plus vieux magasin de magie du monde. Ça a été créé en 1808. Et Dominique Duvivier, qui est donc le propriétaire du magasin, a repris le magasin en 91. Donc ça fait quand même pas mal de temps.
Dominique Duvivier, le magicien.
Oui, le magicien.
Dany, vous m'amenez ici. Pourquoi vous m'amenez dans ce magasin de magie ?
Non, parce que la magie, dans ma vie, depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose qui m'impressionne et qui garde même aujourd'hui mon âme d'enfant. Donc Nicolas, qui est là avec moi, c'est un magicien aussi, qui vient souvent ici.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Donc ça rend... Voilà.
Ah. Il fait un tour avec des pièces.
Voilà, je suis éblouie chaque fois et il me semble que c'est comme la musique ou comme le cinéma, cet univers-là, ça lave le cerveau et ça t'interpelle. Et on a toujours une âme d'enfant quand on aime la magie, il me semble. Donc ce monsieur, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a fait le plan avec le couteau. La carte avec le couteau, là. Eh ben, tu prends un jeu de cartes. Écoute comment je l'ai reçu, moi. Tu prends une carte, tu écris un truc sur une carte. Tu mets un mot d'amour sur une carte ou un mot de ce que tu veux. Un cœur, n'importe quoi. Tu remets la carte dans le paquet. Tu le mets dans un sac, un petit sac en papier. Tu prends un couteau de ton tiroir. Tu plantes le couteau. Et au bout du couteau, il y a la carte que tu as écrite, comme ça. Vas-y, explique-moi. Devant toi, là, comme ça. Hein. Les enfants arrivent.
Il y a les enfants qui arrivent dans le magasin.
Les enfants, ils viennent faire des tours ici. Regarde, ce qui est intéressant, c'est regarde les mots qui accompagnent les tours de magie. Regarde. Boîte à malice, papillon enchanté, secousse sismique. C'est des mots terribles.
Sympathie mentale.
Sympathie mentale, magie gomme. Chapelet de grand-mère, ça on ne sait pas ce que c'est. Sorcellerie, allumette flottante.
Alors qu'est-ce que vous avez vu comme tour, les enfants ?
Le jeu radio.
Le jeu radio ?
Oui. C'est on choisit une carte et monsieur arrive à le deviner sans qu'on puisse en faire et sans toucher le paquet.
Ça a marché ?
Oui.
Impressionné ?
Bien sûr.
Vous voulez des cours de magie à l'école ? Harry Potter ?
Bah oui, c'est sûr que c'est plus drôle que les cours qu'on nous enseigne, mais...
Qu'est-ce que tu pourrais faire que tu peux pas faire dans la vraie vie si t'étais magicienne ?
Faire voler des choses, ce qui est génial pour faire le ménage ou des choses comme ça plus tard. Tirer la vérité de mes professeurs, par exemple les résultats du contrôle.
Savoir à l'avance ?
Oui, c'est ça. Comme ça je repars les questions et je sais tout. Ouais. Je gagne. C'est bien.
Comment tu t'appelles ?
Anémone.
Anémone, si tu pouvais changer, par exemple, ton père en quelque chose, tu le changerais en quoi ?
Je sais pas.
Tu le changerais pas ?
Non.
Ouais, faut pas changer, on change pas son papa. Ça, c'est la meilleure réponse.
Ouais.
Et donc, on va regarder les numéros et au revoir les auditeurs de Radio Nova.
Qu'est-ce que vous voulez dire aux auditeurs de Radio Nova qui vous adorent, Dany ?
Eh bien, qui viennent ici et puis rêver ici. Voilà.
Allez, on coupe. Au revoir.
Vous écoutez Radio Nova avec Dany, c'est la magie.
Liste exhaustive que je couche. Qui me hantait, rire des drogues et des touches partagées, insouciantes. Je n'imaginais pas fin si violente. Où sont mes américaines? Oh, where are my smokes?
À la dérive, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dimanche prochain. Le dernier album de Dany et son livre biographique s'appellent tous les deux « La nuit ne dure pas ». À la dérive, c'est Aurélie Sfez au micro, Bertrand Chometon aux manettes et en podcast sur Nova Planète. Tout de suite, je vous laisse avec Bintou, c'est l'heure de Néo Géo. À dimanche prochain et d'ici là, bonne balade sur Nova.